S'entraîner sérieusement, sans se prendre au sérieux, c'est mon mantra depuis 20 ans que je cours. Je suis Nico, aka Running Addict, fondateur de Campus Coach, l'appli running qui personnalise votre entraînement. Ici, c'est Endorphine, le podcast conçu pour vos footings. Je vous partage ma passion pour la course à pied, mon expérience de coureur et celle des personnes qui m'inspirent. Le but, se motiver à courir et à progresser tous ensemble. Let's go. On est parti.
Ça va, Nico?
Ça va et toi?
Ouais, très bien.
Ça va, toi, Tristan, du coup. Je pense que la majeure partie des gens qui vont nous écouter, nous regarder, vont pas spécialement te découvrir.
On enfin, s'est croisés 2-3 fois, c'est vrai.
On va commencer à compter sur un... En physique, pas tant que ça, mais en réalité, on travaille ensemble très régulièrement. Et le but aujourd'hui, c'est de se parler d'une manière un petit peu différente de ce qu'on peut faire. On n'est pas là pour faire un campus talk en version Running Addict.
Ça tombe bien, j'ai rien préparé. Je ne sais même pas de quoi on va parler. Je te laisse me surprendre.
Si, un petit peu. Mais grosso modo, c'est la première fois aussi que je fais ce format. Donc tu es un petit peu mon cobaye.
Okay.
C'est le format pilote. Le but, dans tous les cas, c'est de se dire que les gens vont nous écouter en courant, à part ceux qui nous regarderaient en vidéo, parce que ça fait un petit peu bizarre. Mais c'est d'accompagner les gens dans leur sortie de course à pied. Et moi, le but que je me mets, c'est d'essayer de les inspirer et de les motiver à courir.
Ok.
Je pense que le brief te convient parce que
faut que je parte en speaker américain.
On va rester français quand même. Hein?
Ok.
On va se dire que les Américains, c'est bien gentil, mais quand on les regarde d'un œil français, ça fait plutôt flipper qu'autre chose régulièrement.
C'est vrai. Ok.
Donc ouais, c'est un petit peu ça que je veux faire. Dans tous les cas, on va faire le format que j'ai en tête, même s'il y a certaines parties comme celle-là où tu vas me dire « Attends, tu veux vraiment que je le fasse ?» Oui, j'aimerais que tu te présentes avec tes mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas, parce que j'espère que certains te découvriront ici, on ne sait jamais.
Eh bien, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Tristan, je suis le coach de la plateforme Campus qu'on a cofondée ensemble. Sinon après, d'un point de vue personnel, au-delà d'être entraîneur en course à pied et plus particulièrement au triathlon, j'ai pratiqué le triathlon moi-même. Je dis j'ai parce que cette année on a levé un petit peu de pied justement pour pouvoir travailler un petit peu plus sur campus, mais il y a toujours des petites inspirations d'endurance avec des objectifs de course à pied, de vélo actuellement, et je pense que ça permet d'avoir un bon background de ce que je vais pouvoir apporter.
On va y venir sur ces petits défis de l'année. Je pense que c'est intéressant de revenir sur les années passées et l'année en cours. Enfin, il y a des choses à dire pour les coureurs, parce que t'es passé à travers pas mal de différentes phases que certains vont retrouver sur 10 ans. Toi, tu les as peut-être retrouvées en un an et demi au final, toutes ces phases. Donc voilà, j'en dis pas plus. Le but, c'est d'aller un petit peu dans les dessous d'Ironman, d'aller comprendre ce qui s'est passé aussi dans ces dernières années.
C'est vrai que tu dis Ironman, je ne l'ai pas précisé, du coup j'ai une chaîne YouTube Ironman, c'est comme ça qu'on s'était connus d'ailleurs à l'origine. Tu avais ta chaîne Running Addict,
ouais.
Et comme tu étais dans le triathlon à l'époque, que tu te préparais pour entre autres les championnats du monde à Nice, on créait du contenu en parallèle, on voyait que l'un et l'autre, on s'inspirait, on arrivait à trouver qu'on avait une vision de l'entraînement assez similaire. Et du coup, c'est ce qui avait fait les premiers échanges.
Ouais.
Et ce qui fait que, combien de temps plus tard, 5 ans plus tard, presque, on est toujours ensemble.
C'est marrant parce que tout à l'heure, je déjeunais avec quelqu'un qui me disait « Est-ce que vous avez toujours la passion comme au premier jour ?» Et je lui ai dit « Je pense que je n'ai aucun doute pour aucun des associés, surtout dans la période où on en est maintenant. Je pense que même elle est décuplée, la passion de ce qu'on fait, parce que à 4, c'est bien. Quand on commence à être 27, 30 et qu'on voit que les gens qui travaillent avec nous sont inspirés aussi, en fait, ça double l'effet qu'on peut avoir. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis.
Est-ce qu'il parlait de la passion pour Campus, ou de la passion pour le sport, pour l'endurance, ou même...
Je pense que c'était pour Campus.
Les deux sont liés de toute façon.
Mais le fait de travailler avec des gens qui sont, pour la grande majorité, des passionnés de course, ça fait qu'au quotidien, ça se passe plutôt bien. Et on n'est pas là pour parler de Campus, mais ça risque de dériver quand même 2-3 fois. Je pense que là, il y a un biais naturel. Ouais,
cet épisode de Endorphine n'est pas sponsorisé par Campus, pas comme tous les autres épisodes. Tu vas pas me faire ton speech?
Je n'ai pas le speech sous les yeux. Mais je pense que vous aurez compris qu'il y aura suffisamment de petites bribes de campus au fur et à mesure pour que j'ai pas besoin de le rappeler en intro. Dans tous les cas, on est là pour parler course à pied en général. Et bah, j'ai envie d'aller pour commencer sur un sujet qui est provoque presque, entre guillemets.
Provoque-moi.
On en joue parfois, mais on n'est jamais retombé dessus sur l'aspect plaisir de courir.
Ouais.
Et le rapport qu'on peut avoir à ça tous les deux. Et les coureurs en général, parce qu'en fait, c'est une notion qui est complexe, je trouve, dans tous les cas. Et bah, moi, j'aimerais déjà que tu me dises que toi, tu en penses. Moi, je pourrais redonner un petit peu mon avis, même si je le partage assez souvent, mais, qu'on échange dessus, en fait, qu'on prenne le temps. On n'est pas pressé, on peut y passer le temps qu'on veut. Y a pas de, on a 10 sujets, et si on ne va pas au bout des 10, ah bah merde, le Campus Talk est terminé aujourd'hui.
D'un point de vue plaisir, c'est vrai qu'on a une grosse divergence vis-à-vis de ce sujet, sur les sports d'endurance en tout cas, parce que, alors je vais résumer en une phrase ton point de vue que tu pourras élaborer juste après, mais tu mets beaucoup plus d'emphase sur l'aspect hédoniste de la pratique, trouver du plaisir immédiat, et si c'est un spectre, moi je mets plus l'accent sur le fait de trouver une gratification un peu... retarder vis-à-vis de l'activité, pas forcément trouver du plaisir dans l'immédiat, mais trouver énormément de plaisir et peut-être, bah, moi ce que je trouve être un plaisir fois 10 fois 100 quand tu vois que tu t'es préparé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, parfois plusieurs années quand c'est des projets qui sont vraiment très longs et ça paye sur un jour J et tous les moments où t'allais t'entraîner et t'avais pas envie, les moments où après le boulot c'était dur, où il pleuvait ou quoi que ce soit, tu dis bah oui, c'était pour ça en fait, là c'est bon, je l'ai.
En fait, du coup, je ne suis pas en opposition parce que ce plaisir-là, je pense que je l'ai, on l'a tous. Et en fait, c'est celui qui est le plus puissant. Je commence à m'en éloigner un petit peu parce que ma dernière course, c'était début décembre. On est fin février, donc ça fait quasiment 3 mois. Mais ce feeling-là, il reste pendant 1-2 mois. Et même là, il n'est pas encore totalement disparu, en fait. C'est presque même le piège parce que tu es dans cette zone de « Ah, c'était quand même bien, ouais. J'ai bien travaillé ». Bon, au bout d'un moment, il faut aussi se mettre un petit coup de pied au cul et y retourner. Parce que sinon, on reste dans le « Ah, c'est cool quand même ».
Ah, il y a 20 ans, j'ai fait une prépa, elle était belle. Hein. Alors là…
Non, mais c'est vrai que moi, je trouve sur ce marathon de Valence, j'ai mis longtemps à réussir à me remettre dedans. T'es bien placé pour le savoir. Il y a des facteurs externes qui jouent aussi, mais je trouve que ça a été intense dans le sens où je ne m'attendais pas au résultat. En tout cas, le jour J pendant, je ne m'attendais pas au résultat. Ouais. Donc… L'effet a été vraiment très très cool pendant longtemps, mais il y a aussi eu l'effet « Ouais, je me suis vraiment fait mal ce jour-là. » Bon, bah c'était bien en fait. Est-ce que j'ai vraiment envie de retourner, aller refaire ça, me refaire mal ? Et là, bah, du coup, on peut retourner sur cet aspect plaisir pendant, parce que quand tu m'écoutes, tu pourrais dire « Bah du coup, la prépa en soi, elle est dure et il n'y a pas de plaisir. »
Après, c'est pour grossir les traits. C'est vrai que quand j'ai commencé l'endurance assez tard. J'ai commencé à 20 ans, 21 ans. Toi, je sais que tu as commencé un peu plus tôt. Donc aussi, on n'a pas la même durée de carrière sportive, on pourrait dire. Quand toi, ça fait 20 ans que tu cours, moi, ça fait que 7-8 ans. Donc forcément, c'est une évolution. Quand tu viens de commencer, moi, je sais que le discours que j'ai pu avoir il y a quelques années, ça parle beaucoup à des coureurs qui viennent de commencer et qui se mettent à l'endurance, spécifiquement à l'endurance, parce que c'est dur. Et l'aspect difficile, moi, je viens des arts martiaux, je viens de la musculation, et je trouve que ce sport, par essence, est difficile. Quand tu es en train de courir 40 minutes, même si tu es en footing, tu cours 40 minutes. Tu n'as pas de moment de pause, tu n'as pas de moment où tu peux te relâcher, où tu fais rien, où tu t'assois sur un banc et tu attends 3 minutes. Maintenant que tu fais de la préparation physique, ça te parle un petit peu.
C'est vrai.
Donc, il y a vraiment ce truc où je pense que mon discours... Il y a beaucoup de gens qui s'y retrouvaient. Mais c'est vrai que quand tu commences à accumuler des années, bah si tu restes aussi longtemps, c'est aussi quelque part que tu y trouves quelque chose de personnel. Et dans la pratique, tu commences à réduire les échelles. Par exemple, moi, je sais que après la plus grosse compétition que j'ai eue en 2022, j'ai continué à courir juste des 30 minutes. Et je pense que c'est le moment de ma vie où j'ai pris le plus de plaisir à courir. Parce que quand tu cours des semaines à... J'ai pas eu un gros volume en course à pied parce qu'il y a le vélo et la natation à côté, mais ne serait-ce que 80-90 km où tu fais des sorties longues de plus de 2 heures, quand juste tu sors pour 30 minutes, ah quel bonheur, tu te dis mais j'ai à peine commencé, c'est bon, le job est fait.
C'est marrant parce que je le dis pas du tout, mais pas du tout comme ça.
Ah ouais, ok.
Moi là, les sorties courtes après une prépa, c'est une tannée, en fait tout est long. Je fais 30 minutes, c'est long. Je reprends les sorties longues d'une heure, je suis en mode mais c'est la fin du monde. Okay. Alors qu'un mois et demi, un mois avant, je faisais deux heures et demie. En fait, moi, le moment où je suis vraiment bien, c'est celui où je vais m'entraîner le plus. Je suis ouais. dans cet état de « Ah, je suis en forme », ça déroule en fait. Mmh. Alors que dès que bah, la forme, on la redescend, après, surtout après une course longue, comme un Ironman, un marathon, il y a tellement de récup qu'en fait, quand tu reviens, bah, il n'y a plus de forme. Enfin, plus de forme. Il y en a encore un petit peu, mais c'est plus du tout les mêmes sensations. Et moi, ça, là, le plaisir, il n'y est plus. Et c'est là où c'est dur de se remettre dedans. Là, je commence seulement fin février à me dire « Ah, les séances commencent à nouveau à être quelque chose qui me parle parce que mon corps s'est remis dedans ». Et en fait, il faut presque que je m'arrête jamais si je veux pas avoir ça. Moi.
Parce que tu regardes le chrono peut-être dans ces moments-là.
Je sais pas. Peut-être qu'il y a un biais de ce côté-là. Hein. Mais c'est vraiment le feeling de tout est dur, tout est long.
Je suis nul.
c'est la même chose que dans moi, les semaines de récup. En particulier quand je faisais du tri en vélo, les séances de récup, les séances de semaines de récup où tu faisais genre, je sais pas, 10 fois une minute de seuil, elle me semblait dure, alors que c'est des séances ridicules par rapport à ce que tu fais en grosse semaine. Je sais pas si mon cerveau est totalement fucked up pour ça, ou alors parce qu'il y a juste différents modèles et qu'on est tous différents. Mais ouais, je le vis inversement de ce côté-là.
Ok, ah, je profite quand les semaines sont faciles, mais comme tu le dis, oui, quand tu sens que t'es fort, quand tu sens quelque part que ça va bien se passer, ou tout du moins que t'arrives dans un niveau de condition physique que t'as jamais atteint, c'est vrai que c'est quand même grisant. Bon, en général, t'arrives sur des sens assez durs, t'as pas envie de faire plus et t'as pas envie de te dire ah, je suis fort, je vais aller faire 10 fois 1000 du femelle. Non, tu te contentes de ce que t'as, mais je peux comprendre. Et là, récemment, comme on est sur le sujet du plaisir, ça m'y fait penser. J'ai provoqué une nouvelle recherche de plaisir qui est de faire les choses en groupe. Je vais pas te dire que je t'ai proposé un objectif sportif qui se faisait ensemble, mais c'était dans cette démarche-là de se dire, j'en dis pas plus, mais peut-être voilà. Mais c'est de se dire, quand tu fais les choses en groupe, en fait, le fait de le faire ensemble prend le pas aussi sur le fait, sur la performance personnelle. Là, peut-être que je balaye un peu tout parce que l'aspect chrono, l'aspect se dépasser, l'aspect réussir que voir que ces actions ont un impact. Je me suis entraîné dur, j'ai fait ce qu'il fallait. Je courais le marathon en 4 heures grâce à mes actions, je le cours en 3h30. Ça, c'est quelque chose qui est hyper cool. Quand tu l'as vécu 5 ans, 6 ans, 8 ans, au bout d'un moment, peut-être que tu veux varier pour y retourner dans 10 ans, dans 15 ans, parce que tout n'est qu'un cycle. Et l'aspect, là, en ce moment, l'aspect le faire avec des gens, je trouve ça hyper cool. On avait parlé de potentiellement, tu vois, moi me préparer pour un 10 km, toi me pacer, ça aurait été bien. Le projet dont on parlera pas dans ce podcast où on aurait fait ensemble, bah évidemment on aurait voulu faire bien parce que ça aurait été ensemble. Donc le fait de j'ai pas le mot en français de devoir quelque chose à l'autre. Donc tu vas à l'entraînement en disant c'est aussi pour respecter le travail de l'autre que je vais faire les choses bien. Et le jour J, tu te tires vers le haut. Il y a une émulation collective qui est hyper cool. Mais voilà, ça te donne une alternative au chrono de je vis quelque chose en groupe. Et ça aussi c'est une belle source de plaisir.
Ouais, je suis assez d'accord. Cet hiver, il y a des moments où je me suis dit, bon, je ferais bien les petites séances avec un groupe. Et c'est juste que c'est pas compatible avec mon mode de vie en ce moment. Parce qu'il faut y aller à 18h30 le mardi et le jeudi, ce qui parle à énormément de coureurs qui font ça. Mais moi, mon mode de vie fait qu'à 18h, je peux aller dormir quasiment régulièrement. Et qu'en fait, si je fais mes séances-là, elles vont être nazes. Donc, je l'ai fait à 11h30. À mon meilleur moment de la journée pour que ça soit efficace, mais il y a certaines séances au cœur de l'hiver où je me suis dit qu'est-ce que je fous là, pourquoi je fais ça. C'est plus le cas là maintenant, comme souvent c'est pas un cycle, moi j'appelle ça la sinusoïde pour les matheux, ça parlera, ouais. T'as des hauts, t'as des bas, et des fois ils sont très hauts, des fois ils sont très bas, souvent c'est lié, hein. Si t'as un très haut tu vas avoir un très bas ou l'inverse, et des fois c'est calme, ça va. Là en ce moment je suis revenu dans une phase où c'est trop tard, il y a un 10 km dans 2 semaines, ça ne va pas suffire pour être en méga forme, mais j'ai envie d'aller le courir et j'ai envie de m'entraîner. Et là, j'ai retrouvé justement ce que j'aurais pu ne pas avoir si on avait parlé de plaisir il y a peut-être un mois, j'aurais eu peut-être un autre discours là où j'en étais, mais là, je suis dans une phase où une séance dure va me faire plaisir, sûrement en fait par le chrono. Je pense que j'ai un esprit analytique, mathématique, donc... En réalité, c'est sûrement ça. Je pense que ce que je vois, je le mets directement dans mon cerveau en mode « Ah, c'était bien, parce que j'associe mes sensations à un chrono et je les compare et je me dis là je me sens en forme. Si je voyais un autre chiffre sur la montre, peut-être que je te dirais c'est de la merde.
Mmh.
Et du coup, je suis assez d'accord qu'il y a, il y a forcément un biais de ce côté-là. Mais bon.
Juste avant de poser une question, je veux juste revenir sur le fait de là tu parles de fractionner, etc. Et bah, comme je connais l'essence de fractionner que tu fais, je peux en parler. Tu vois, il y a un point hyper important dans les gens qui ont une démarche de performance, de progression et qui mettent. Bah, par exemple, qui vont suivre un plan d'entraînement sur campus, évidemment, mais c'est le fait de réussir ces séances. Et je pense pas que tu aies vu qu'il y a un petit changement, mais il y a eu un petit changement dans ton plan qui fait que là tu réussis toutes tes séances en ce moment, et ça c'est quand même plaisant, tu vois. Et je trouve que être confronté à l'échec de manière trop régulière, c'est très contre-productif sur le long terme. Et là, je sais que tu vis ta meilleure vie parce que bah, tout se passe bien. Alors, les séances sont belles, évidemment, mais tu les réussis toutes,
oui, oui, oui. On est d'accord cool. Que le 6 x 1000 allure 10 km, c'est pas une séance ultra difficile. j'en suis conscient. Mais les petites séances, quand tu commences à mettre de l'endurance de force avec des intervalles derrière, ça, tous ceux qui sont sur le campus nous le disent et je pense qu'ils ont raison. Elles sont jamais faciles, ouais. Quand tu t'es tapé un petit 4 x 30 secondes en côte. Mais on apprend à les apprivoiser avec le temps au final.
Est-ce que toi, sur tes 20 ans de course à pied, je pense que ça fait 20 ans parce que ça fait 3 ans que j'ai 17 ans donc en fait
moi
j'ai
aussi.
20 ans
j'ai fait exactement ce calcul il y a pas longtemps, je me suis dit, attends, je m'apprête à avoir 36, j'ai pas démarré à 18 donc ça fait pas 18, oui oui j'ai démarré à 16 donc tu peux arrondir à 20 dans... on y est.
Est-ce que toi t'as eu une évolution dans ton plaisir au fur et à mesure des ans, tu vois, alors tu parles de sinusoïde, moi je parle de cycle, est-ce que toi tu vois quelque chose qui se répète? Tu vois quelque chose majoritairement qui te fait rester là-dedans?
C'est très difficile à répondre pour moi, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nouveauté, je suis plutôt un créatif, et du coup être dans un schéma qui ne bouge pas, en théorie ne me convient pas. C'est pour ça qu'on m'a vu passer de l'athlétisme... à la route, puis au trail, puis heureux à la route, puis au triathlon, puis à nouveau à la route. Et là, je suis dans un schéma où, en fait, ça va être cette année mon 5e marathon de suite que je prépare comme objectif majeur. Et ça m'est jamais arrivé avant, en fait.
Okay.
Donc, je pense qu'il y a un lien avec Campus dans tout ça, que ça m'a... Il y a un lien. Le marathon me va, j'ai trouvé une distance qui me convient, grosso modo. Mais il y a aussi le fait de dire, bon, je pense qu'il y a un biais dans ma tête de, il faut qu'on prouve tout ce qu'on fait. Et je pense qu'on est, enfin, dans tous les cas, la meilleure chose à faire quand tu dis des choses, quand tu donnes des conseils, quand tu construis quelque chose, c'est de montrer toi-même. C'est pas d'être, no offense, mais le coach qui est en bord de piste avec son sifflet, qui a jamais couru et qui est un peu dans bon point, qui va te dire, ah bah non, mais là, tu devrais faire comme ça. Il y en a des très bons, hein. C'est un gros cliché.
On ne dira pas que c'est 50% des preuves de PS. D'accord. Ça, hors de question sur ce podcast, je m'en fais le garant, vous inquiétez pas.
Voilà, on a dit qu'on ne couperait rien dans ce podcast, donc ça ne sera pas coupé. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est...
Je pense qu'aujourd'hui, bah, aussi grâce aux réseaux sociaux, etc., on a la chance de pouvoir d'être exposé à assez de gens pour avoir le luxe de pouvoir trouver des gens qui mènent par l'exemple. C'est pas forcément, bah tu vois, t'es au fond, je sais pas, au fond, t'es dans une ville où t'es pas forcément en contact avec une grande agglomération, t'as ton club, l'entraîneur, bon bah peut-être qu'il a fini sa carrière, hein, il a 60 ans, 65 ans, j'en sais rien, peut-être même 50, qu'importe. Bon bah oui, peut-être que lui a plus grand chose à prouver, nous on est quand même jeunes, tu vois, donc c'est facile pour nous de dire ça aujourd'hui. Bon bah voilà. Après, quand tu commences à avoir ta visibilité en ligne, tu peux trouver des gens. Ou bah oui, c'est quand même cool de trouver quelqu'un qui montre l'exemple, qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit. Même si je sais que toi tu dis souvent que tu fais pas ce que tu dis, la réalité c'est que tu fais quand même 90% des choses
ouais,
que tu dis.
C'est juste qu'il faut se dire qu'on n'est jamais parfait et que c'est pas parce qu'on
c'est
dit
ça.
Des choses qu'on est tout le temps dans ce schéma. De toute façon, ça serait.
C'est que tout le monde a droit à l'erreur.
Oui, exactement.
Exact. Mais voilà, donc aujourd'hui, grâce à Internet, on a quand même ce luxe-là et pour moi c'est primordial et. Ouais, j'aurais du mal à prescrire des choses ou à dire aux gens de faire quelque chose que moi-même je n'aurais pas fait. Tu vois, c'est en partie pour ça que alors j'ai préparé l'Ironman de Kona il y a 2 ans de ça. 1 an de ça ?
2 ans.
2023, ouais.
T'étais dans la prépa vite, hein. Il y a 2 ans.
Ouais. Mais tu vois, de me dire, bah voilà, je m'entraîne 3 fois par jour, je m'entraîne 16 fois par semaine. Personnellement, bon, bah, c'est cool, ça a des côtés positifs et négatifs. Mais si un jour je suis amené à entraîner quelqu'un qui s'entraîne 16 fois par semaine, je l'ai vécu. C'est pas une nécessité, mais moi je trouve ça important. Parce qu'à un moment, il va falloir se mettre à la place de quelqu'un. Et quand on prend beaucoup la parole quand même pour essayer d'aider les gens, on essaie de produire beaucoup de contenu pour, parce qu'il y a des nouveaux arrivants qui arrivent et qui ont toujours besoin d'aide. On prend beaucoup la parole. Et je pense que c'est vachement important, dans tous les conseils qu'on dit, que les gens se disent au fond d'eux, ouais, s'il me le dit, c'est peut-être que lui a fait 3 fois l'erreur, qu'il a vu 60 fois l'erreur, parce que sur campus, ils font tous l'erreur. Et du coup, s'il me le dit, c'est bienveillant et il y a de grandes probabilités qu'il ait raison, quoi.
Tu vois, ça me fait penser à un autre aspect, parce que là, on parle de le vivre en tant qu'athlète. Toi, tu le vis aussi en tant que coach. Et on pourrait se dire, ah bah il est sur campus, pourquoi en fait il fait du coaching à côté? C'est, il perd son temps. Je sais que c'est pas une perte de temps, mais en gros, je connais la réponse, que tu as déjà donné une bribe, mais explique pour toi pourquoi le continuer de faire du coaching, c'est important et ça participe à, bah, ça participe à tout ce qu'on fait aussi sur campus au final.
Bah, il y a différentes choses. La première, et ce qui est la plus flagrante ou la plus importante pour moi, c'est juste de me dire, ok, je peux tester des choses sur moi, c'est très cool, mais il me faut quand même des échantillons de personnes à qui l'appliquer pour m'assurer que ça fonctionne bien, parce que de faire d'un cas une généralité, c'est pas ouf, je trouve que c'est quand même un bon début, mais ça va pas suffire à résister à l'épreuve du temps.
Ça donne des hypothèses, on va dire.
C'est ça. Donc il me faut quand même un petit pool d'athlètes pour, je pense que les gens que j'entraîne le voient, 90% de ce qu'ils font sur l'année, d'une année sur l'autre, ne change pas, parce que c'est en réalité que des gens aujourd'hui que j'entraîne depuis plusieurs années, pour la grande, grande majorité. Et il y a un petit 10% où, qu'est-ce qui se passe si je fais ça de telle manière? Qu'est-ce qui se passe si ce cycle-là de seuil 60, je vais le pousser de telle manière ou je vais le programmer de telle manière? Voilà, c'est juste des pour tester, et moi, ça me permet d'avoir en fait 3 échelles. Mon échelle personnelle, un échantillon sur une 15aine d'athlètes et un échantillon sur 100 000 coureurs. Et donc, bah, ça me permet, en tant qu'entraîneur, de beaucoup apprendre et d'être beaucoup plus confiant quand je donne quelque chose à faire à l'entraînement, simplement. Donc ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est juste que, évidemment, quand on est sur, par exemple, le salon du Marathon de Paris, parce que c'est le prochain qui arrive, alors non, le salon, c'est un mauvais exemple parce que c'est avant, donc je sais juste que la prépa s'est bien passée, mais je sais pas que les gens ont réussi.
C'est le meilleur moment parce qu'en fait là, les gens sont, ah, oh, c'était trop bien,
c'est ça.
Là, bon, on va espérer que ça marche pour tout le monde, vous êtes tous contents pour l'instant.
Vite, mais rentrez à l'hôtel, mettez les jambes en l'air, marchez pas dans ce salon là. Bon, après une course, quand t'as les feedbacks des gens qui sont trop contents, tu passes les stories de campus ou t'as 100 stories de mecs qui ont réussi leur course, comme tu ne les as, alors tu sais que c'est toi quelque part qui, c'est un peu toi qui leur a permis d'accéder à ça, mais t'as pas été au contact d'eux, donc il en faut beaucoup pour apporter du bonheur. Le coaching one-to-one, l'avantage, c'est que t'es tellement connecté à l'athlète et bah, tu lui parles chaque semaine, t'essaies d'adapter et t'as un vrai lien qui se crée, que quelque part en fait, sa réussite, c'est ta réussite. Et donc t'as pas besoin d'avoir 100 réussites pour être vachement heureux en tant que coach, t'en as besoin d'une seule. Et donc, la réussite de chaque athlète, ça t'apporte quelque chose. Donc, ça aussi, c'est une des raisons qui fait que c'est vachement important pour moi, c'est ce lien social. Alors, c'est aussi pour ça que ça m'arrange aujourd'hui d'avoir campus et de pouvoir me satisfaire de peu d'athlètes, entre 10 et 15, parce que comme tu t'investis émotionnellement et que je ne suis pas de nature très extravertie, ouais, tu vois, ça me demande beaucoup d'énergie. Donc, c'est pour ça que je me retrouve aussi à suivre des gens sur le long terme, c'est que bah, t'es attaché émotionnellement et cet investissement, tu le fais perdurer dans le temps. Alors que si c'est que des gens que t'entraînes sur 6 mois, 8 mois, bah, c'est comme si, c'est simple, hein, quelqu'un qui tombe amoureux, qui a une rupture tous les 6 mois, c'est chiant. Bah, c'est ça dans 10% de la mesure, quoi.
C'est comme les utilisateurs du campus, en réalité. Ceux qui nous... Si je te demandais de citer des gens... Bah, c'est toujours les mêmes qu'on cite parce que c'est ceux qu'on connaît depuis le début, qui ont une histoire. Ça ne veut pas dire que les autres, bah, on ne les connaît pas déjà, donc c'est plus difficile de les citer. On ne connaît pas les 100 000 abonnés par cœur. C'est compliqué. Mais oui, on a aussi créé avec des gens qu'on a vus plusieurs fois sur les salons, qu'on a vu réussir leur course, qu'on a vu progresser, qu'on a vu gagner 30 minutes, 1 heure sur, leur, sur un temps au marathon. C'est... Et du coup, bah, petit à petit, tu crées quelque chose aussi. Et c'est ça que je trouve cool, en fait, moi, quelques années après, c'est de se dire qu'il y a de la... Tu peux voir un vrai effet de... C'est pas juste... Au début, tu te dis, bon, bah, ça a marché une fois. Est-ce que potentiellement n'importe quelle prépa aurait marché? Parce que bah, déjà, suivre une prépa, en fait, c'est un gros gain en soi pour beaucoup. Et après, dans le temps, tu te dis, bon, non, ça semble quand même, ça semble quand même être un trend intéressant.
C'est vrai qu'il y en a certains qu'on voit souvent sur les salons, pas que sur les mêmes d'ailleurs, qui nous suivent à droite, à gauche, qu'on revoit à Metz, qu'on voit à Lyon, etc. C'est quand même plaisant. Hein.
Mmh. Qui viennent, et puis je vais pas aller sur le sujet nos petits pacers, mais on a quand même sorti la sortie à reconnaissance du marathon de Paris le dimanche dernier avec 110 coureurs. Dire que ça, quand tu vois débarquer ça sur ton téléphone, là, ça, quand même, ça met un coup de se dire bah, on n'était pas là du tout, on n'était pas impliqué, il n'y a pas de biais de ah, on est venu, on a fait venir du monde, c'est juste pour Campus, pour bah, ces personnes-là qui deviennent aussi des influenceurs Campus, je ne sais pas comment, dans le bon sens du terme, parce que ce mot est mal utilisé, mais je sais qu'à Paris, les trois sont reconnus et les gens viennent aussi pour courir avec
eux. Ils vont nous piquer la vedette.
Et ouais.
Oh non.
Mais c'est ça qu'on voit partout en fait. Et c'est ça qui est trop cool. C'est de te dire que tu mets aussi en avant des gens qui sont là pour partager leur passion de la course. Et c'est communicatif quand c'est vécu comme ça.
Tu sais, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que pendant très longtemps, je pensais qu'à titre personnel, tu n'avais que très peu d'influence de manière générale sur le monde qui t'entoure. Et plus le temps passe, plus je me rends compte qu'en fait, quel que soit l'environnement, quel que soit le groupe, il suffit d'une personne pour avoir un énorme impact. Quand je vois par exemple l'impact que j'ai eu tout, quand je faisais des arts martiaux dans le club dans lequel j'étais, mais à l'inverse, quand je vois l'impact que mon maître a eu sur moi à lui tout seul, bah tu vois, lui m'a transmis des choses, à mon tour j'ai transmis au club et ces personnes ont transmis autour d'eux et ces valeurs là après m'ont fait arriver sur YouTube et je l'ai transmis à un petit groupe qui a grossi et ce petit groupe, et bah parmi eux il y a des gens qui ont réussi à le transmettre autour d'eux et ça nous a permis de créer Campus et aujourd'hui bah, c'est ces pacers là qui couraient pour leur plaisir, pour leur loisir parce que c'est aussi une passion, qui aujourd'hui ont eu l'opportunité de devenir pacer Campus et peuvent propager cette bonne parole. Et en fait, comme tu le dis, et nous on le voit parce que là, des groupes de pacers, je sais pas, il y en a plusieurs dizaines à travers la France.
On arrive à 20.
Ouais, voilà. Ah bah parfait. Bah à partir de 20, on a le droit de dire plusieurs dizaines. Deux, ça compte comme plusieurs.
C'est bon.
et tu vois, ces personnes-là, à chaque fois, ce qu'on dit, c'est qu'est-ce qu'il nous faut pour avoir un groupe de course ? Il faut un bon pacer. Et en fait, individuellement, on peut tellement avoir d'impact et ouais, je sais pas si toi t'as réussi ou si tu vois ça de cette manière là mais alors en même temps t'as aidé tellement de coureurs toi avec Running Addict et, donc toi forcément peut-être que ça te paraît plus logique, mais t'arrives à le réaliser ça?
Non, en fait pour moi, et enfin je pense que c'est la nature des chiffres et du cerveau humain qui fait ça, mais je trouve ça plus impressionnant de retrouver 110 coureurs à la sortie Campus que n'importe quel chiffre que tu pourras me sortir d'internet, en fait. Même si je vois 110 commentaires de suite, naturellement, pourtant c'est les mêmes personnes, enfin c'est des personnes, c'est pareil, mais ça ne peut pas avoir le même impact, je trouve, dans le cerveau que là, tu as visuellement le signal de il y a 110 personnes qui sont ici, tu dis waouh, c'est beaucoup. Et après on te dit ah, il y a 50 000 personnes qui ont regardé cette vidéo, tu dis ouais, normal.
Ouais. Mais bon, c'est juste un stade de France.
Il y a un biais qui est assez fou. Mais je commence à m'en rendre compte depuis le retour en France parce que au fur et à mesure, je rencontre beaucoup plus de monde. C'était aussi un des buts. Et à chaque fois, il me dit ah, j'ai parlé à machin, il te connaît. Machin qui fait ça dans la vie. Et je fais ah, ok, d'accord. Et en fait, dès que je vais quelque part, je dis ah, bah oui, lui, il court et il connaît Running Addict, évidemment. Et tu te dis ah, ok. Et en fait, là, ça met à chaque fois des humains derrière le truc. Et je trouve ça cool parce qu'en fait, on peut avoir l'impression qu'on entraîne des coureurs. Et en fait, tu vois que dans la vraie vie, bah, le coureur n'est pas un métier. Par rapport à un tout petit nombre de gens, tu les retrouves partout, en fait, comme des... Et en fait, ce que je trouve cool là-dedans, c'est qu'en fait, c'est on a la capacité via ce mécanisme, comme tu viens de l'expliquer, de dire si on arrive à convaincre cette petite personne-là qui devient fan de course à pied, bah, il va le propager dans tout son environnement. Et là, si on parle d'un bureau, tu dis ah ouais, bon, bah, lui, finalement, il faisait le semi de Paris, il m'a incité à le faire aussi, bon, bah, j'y vais. Et finalement, la personne, en s'y mettant, se dit ah bah, c'est pas si mal la course à pied. Et en fait, c'est un. Enfin, comme on dit souvent, je suis très très mauvais dans ce genre de truc, mais. T'es à trois personnes de connaître la moitié de la Terre là, ou je sais pas quoi. C'est très très mauvais ce que je dis, mais en fait tu peux propager un truc de la même manière en fait, juste si t'arrives à chaque fois que tu croises un groupe, t'as une personne que tu convaincs de se mettre à courir, bah dans pas longtemps toute la Terre court en fait.
Exactement, ouais. Ça c'est ma question favorite sur les salons, c'est quand les gens disent ah bah j'ai commencé la course à pied, truc, je leur dis mais est-ce qu'il y a des gens autour de toi, genre qu'on commençait à courir parce que tu courais, 90% du temps la réponse elle est oui. Et là tu fais bah c'est bon, félicitations, tu fais partie du club. Et c'est...
Tu lui donnes un badge quand
ouais.
Il...
Après, c'est... peut-être qu'on a une vision tronquée, mais je pense pas que les gens qui écoutent ce podcast tireront contre nous. Mais il y a un postulat de base quand même qui est pratiquer une activité physique de manière régulière et au minimum vitale. Voilà, j'ai même pas envie de dire bon pour la santé, j'ai juste envie de dire vital. Et au maximum, permet aux gens qui le font de devenir de meilleures personnes. Soit parce qu'ils développent des valeurs, soit parce qu'ils développent une éthique, une morale, une discipline, ce que tu veux, envers eux-mêmes. Et que bah, réussir à être discipliné pour soi, ça permet aussi d'avoir un rapport à l'autre un peu différent. Et de notre point de vue, de mon point de vue, mais je m'avance pour le toi, aussi un peu meilleur. Donc si tout le monde faisait du sport, en fait, on serait tranquille. Normalement.
C'est QFD. On peut s'arrêter là. C'est bon. C'est ça le message. Mais on a encore du travail pour propager ça. Je repense à ce que je publiais aujourd'hui sur le « tu fais trop de sport ». Moi, j'en ai pas vraiment dans mon entourage. Je pense que de toute façon, personne n'oserait me le dire aujourd'hui. J'ai trop d'implications là-dedans. Mais je pense que ce genre de message, il est de moins en moins vrai, en fait. J'ai envie de dire que les sportifs sont de moins en moins marginalisés et que tonton, je donnerai pas de prénom parce qu'après on se fait...
Oh, il allait dire Robert, oh non.
Tonton Jean-Robert, au final, qui vient te dire « Ah, tu fais trop de sport », en fait, bon, il y en a toujours, hein. Il y a toujours des gros lourds de toute façon, mais il y en a de moins en moins parce qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui hésitent à se lancer là-dedans, qui disent « Je vais sûrement être en minorité », alors qu'à une époque, c'était majoritaire, en fait, t'étais le seul sportif autour de la table. Bah forcément, tu te faisais...
Le repas de famille à 10 où t'en as 9 qui te tombent sur le dos. Et aujourd'hui, ça serait plutôt l'inverse. Et même, c'est peut-être ceux qui font pas de sport du tout qui peuvent être ridiculisés. Bon, après, moi, on m'a quand même déjà dit que je faisais quand même beaucoup de sport.
Oui,
plus
bon, après,
pas en ce moment.
Il y a quand même, on va se le dire, on fait partie des gens qui font beaucoup de sport.
Oui.
On va pas mettre trop, mais beaucoup, c'est entendable sans trop de...
Pour tous ceux qui nous écoutent, qui se demandent s'ils font trop de sport, je donne ma règle. Si jamais vous êtes capable, au cours d'une période de temps assez longue, moyen long terme, de changer des priorités et de diminuer votre volume, vous avez de grandes chances que ça aille. C'est-à-dire que s'investir beaucoup pour un projet qui est prioritaire dans votre vie, c'est normal. S'investir beaucoup pour n'importe quoi et des choses qui ne sont pas forcément prioritaires et pour lesquelles vous auriez dû prioriser d'autres choses, c'est là où ça commence à coincer peut-être un petit peu. Mais ouais, en tout cas, c'est plutôt bon signe que les gens commencent à s'y mettre. Et si j'avais envie d'être un peu piquant, il y a une phrase que je me dis. Je me dis, tu vois, alors typiquement, quand tu travailles avec les gens, travailler avec des gens qui physiquement ne se sont jamais donnés à fond sur un effort et n'ont pas cherché à atteindre leurs limites physiques et donc mentales quelque part. C'est plus difficile de leur faire confiance à ces gens-là. Tu pourrais tourner le truc en disant « Ah, t'as jamais atteint FC Max ?» bizarre.
Tu vois, tu me fais penser à... Je pense que c'est Théo Lyon qui disait ça dans un de ses podcasts, dans sa découverte de la course à pied. Vous ne connaissez sûrement pas parce que c'est dans la sphère entrepreneuriale, peut-être certains, mais il disait « Ce que j'aime dans la course à pied, c'est que il n'y a rien qui t'oblige à continuer de courir quand c'est dur, c'est juste toi avec toi. Et si tu ralentis, c'est toi qui choisis de ralentir. Si tu tiens,
c'est ça.
Et ça, c'est cette. En fait, quand il a dit ça, je me suis dit, oui, c'est vrai que ce côté-là de la course, tu le retrouves pas vraiment ailleurs. C'est comme si tu te fouettais toi-même et tu dis, non, tu ne ralentiras pas. Et en fait, ce combat dans la tête, qui peut durer très longtemps quand on est sur des longues distances, je suis bien placé pour le savoir avec ce fameux marathon de Valence, Bah, en fait, tu te l'auto-imposes, mais une fois que tu réussis, et ça ne veut pas dire qu'on y arrive au tout début. Moi, ça, enfin, encore une fois, ça fait 20 ans que je cours. Il y a toute une notion d'expérience qui fait que tu arrives à ne pas prendre les mauvais chemins au moment où il ne faut pas les prendre. Qu'est-ce que je voulais dire avec ça? En fait, ce que ça te sert dans toutes les sphères de la vie. Après, une fois que tu réussis à faire ça, que tu dis, bah, en fait, si je veux, j'arrive à passer outre ce que mon cerveau peut me dire, parce que le cerveau, il n'y a pas qu'en courant qui nous dit d'arrêter, de faire autre chose, d'aller se mettre dans le canapé, d'aller sur Insta. Bref, ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas.
Non.
Les algorithmes sont trop puissants, ils sont plus puissants
Nous
que
ne
nous,
sommes que
mais
des hommes.
exactement. Mais au moment d'aller courir, eh bah, ça n'arrivera pas qu'on se dise, oh bah non, je n'y vais pas. Parce que ça, ce côté discipline, bah, je pense qu'il vient des courses qui nourrissent l'entraînement, enfin bref, pour moi, c'est un ping-pong et c'est pour ça que je dis souvent que il n'y a rien qui peut acheter l'expérience dans tous les cas. Et que même si je ne sais pas si je progresse toujours concrètement, physiquement, mais j'arrive à monter d'autres curseurs qui, dans tous les cas, font que la performance au global, elle augmente. Et c'est, enfin, là, je vais encore sur autre chose, mais c'est ça que je trouve passionnant dans la course, c'est qu'en fait, ou dans le sport en général, des curseurs, en fait, il y en a 50. Et quand tu penses, dire, ah, bah, j'ai joué avec tous ces curseurs-là, pouf, ah, bah, en fait, il y en a plein d'autres à côté que tu peux aller commencer. Même moi, je suis en réalité très loin d'avoir optimisé ce que je peux faire. Après, dans la vie, il y a d'autres priorités.
Tu sais, il y a des rabat-joie de l'entraînement qui se veulent un peu scientifiques et qui vont t'expliquer, ah ouais, mais de toute façon, tu sais, en 12 semaines, t'as maximisé VO2 max, et puis, ah, et puis tel truc, c'est maximisé en 4 jours, et puis machin. Peut-être tu les écouterais, tu cours 20 semaines, t'es déjà ton potentiel maximum. Pas de chance qu'on prouve qu'au bout de 20 ans d'expérience, oh tiens, il y a tel truc, si je l'active et que je garde tout le reste que j'ai accumulé depuis 20 ans au même niveau d'exigence, bah tiens, mon VO2 max, il n'est pas censé supposer bouger, et pourtant je continue à progresser, que ce soit sur des distances 1500 mètres ou 5000 ou marathon. Et oui, heureusement que le réel nous rappelle que, quel que soit le niveau d'investissement, il y a toujours des trucs à faire. Tu vois, que quand tu entends parler n'importe quel sportif de haut niveau, tu vois que si tu creuses un petit peu, il est capable de te citer 10 leviers qu'il n'a pas encore activés et qu'il est pressé d'activer, mais il prend son temps, il va les activer les uns après les autres pour pas se cramer non plus et pas faire les choses trop rapides, trop vite.
Ça me fait penser à, bah, je pense, ma série de reportages préférée d'entre tous, c'est les intérieurs sport, où, pas tous, mais quand même, ils sont quand même très très bons pour aller chercher les sportifs. Bon, ils les suivent très longtemps en général aussi, hein, le secret c'est de passer quand même beaucoup de temps avec eux pour en tirer un truc. Mais, t'sais, le dernier que j'ai regardé, c'était sur Céline Dumère, la basketteuse, là, qui a joué jusqu'à 40 ans. Et qui, en fait, tu te dis, putain, mais même à 40, ça fait 20 ans qu'elle joue. Et tu vois que c'est pousser les meilleurs champions, c'est ceux qui ont poussé à l'extrême le fait de dire, non, mais ok, ça, c'est les 9 trucs qui sont là, tu me dis, c'est bien, mais il y a celui-là où je peux faire mieux. Et en fait, ne jamais regarder. En fait, c'est presque. Des fois, on pourrait dire, mais il faut fêter les trucs. Oui, il faut fêter, mais en fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est ce truc que j'ai vu, que je sais que je peux aller améliorer. Et c'est ça chez tout le monde. Hein. Kevin Mayer aussi, enfin, dans le décathlon en même temps, c'est un truc.
Oui, là il y a pas mal de leviers.
T'as forcément des leviers, mais tu vois que le gars, en fait, est jamais content. Et c'est souvent mal vu, en fait, d'être jamais content. Mais moi, je trouve que faut pas non plus tomber dans le piège. Et en tant qu'amateur, c'est pas
Surtout
forcément
pas,
ce
ouais.
qu'on dit qu'il faut faire. Mais j'aime le côté des champions de dire, non, je veux aller améliorer ça. Allez, on y retourne, j'y vais. Et en fait, voilà, je pourrais en parler pendant des heures parce que je trouve ça passionnant.
Ouais, et quelque part, ça boucle sur le plaisir qu'on disait au début. C'est que tu sais que ah, le plaisir d'avoir poussé le processus, d'aller chercher un nouveau truc et de voir que ça fonctionne encore, ça c'est quand même plaisant. Parce que bah, en course à pied, tu peux soit justement continuer à t'investir aussi progressivement de plus en plus ou bah, d'être de plus en plus exigeant sur des domaines divers de ta vie, soit bah, tu peux aussi accepter d'aller faire autre chose. Et là, ton niveau d'exigence repasse de 99% à 40%, et le 40% te suffit à reprogresser et à retrouver. En fait, moi, je pense que, tu vois, vis-à-vis du plaisir dont on parlait, et cet aspect, j'accumule pour avoir 100 fois plus tard, c'est juste prouver que agir, ça fonctionne.
Ouais.
Juste ça. Et si parfois je me fais un petit peu mal et que je vais un peu dans des zones inconfortables, pas de manière trop démesurée, en général ça paye avec des dividendes assez positifs sur la vie de manière générale. Et c'est pour moi le truc fondamental, tu l'as dit tout à l'heure, ce que tu as en course à pied, c'est pas clos dans la course à pied. Tu peux l'utiliser dans plein d'autres domaines de ta vie. Et tu vois justement cet aspect perfectionniste que peuvent avoir les athlètes de haut niveau. Je sais que ils sont très demandés sur certains aspects et même ils sont en général de très bons collaborateurs, que ce soit au travail ou entrepreneurial, parce que justement ils ont ce degré d'exigence envers eux-mêmes qui peut être poussé dans n'importe quel autre domaine de la vie.
Ça c'est, enfin, je sais aussi pourquoi j'aime regarder ça, parce que bah, sur d'autres aspects, mais il y a un côté exigence que je sais que j'ai un petit peu trop parfois. Mais d'exigence avec, en fait, exigence avec les autres, mais en fait, mille fois moins que ce que je peux avoir avec moi. Et du coup, enfin, c'est dur de se calibrer aussi, parce que tu regardes ça et tu dis, ah ouais, moi aussi, j'ai envie de... Non, attends, calme-toi. T'es pas un... T'iras jamais aux Jeux Olympiques, donc toi, ton rôle, c'est pas d'être à ce niveau-là. Et en fait, je pense que le plus dur, pour moi, après 20 ans de course, c'est de se dire, je sais que je peux améliorer des trucs, mais... lesquels valent le coup versus mon objectif qui n'est pas juste de devenir un coureur qui fait 2h30 et qui pourra juste dire bah, très bien, j'ai fait ça et ça apportera pas grand chose de plus. C'est de dire, est-ce que ce truc là il vaut le coup d'être fait versus tout le reste, qu'est-ce qui va me prendre comme énergie, comme temps. Et en fait je trouve pour les amateurs c'est ça qui devient, et ça peut se mettre à n'importe quel niveau. En fait tu cours 4 fois par semaine, tu peux te dire, comment je fais pour progresser encore à 4 fois par semaine sans avoir à en rajouter. Évidemment, à la fin, il y a un moment où ça ne marche plus. Mais on sous-estime souvent ce qu'on peut faire avec peu, entre guillemets. 4 fois par semaine, ce n'est pas peu, mais versus ce qu'on était en train de se dire, ce n'est pas tant que ça. Je trouve que souvent, en fait, on a tendance à... Et c'est ce qu'on ne fait pas sur Campus, et je suis très content qu'on n'aille pas dans ce genre de travers, entre guillemets, c'est que on pourrait dire, ah oui, il faut en faire plus, il faut faire machin, hein, parce que ça va marcher. Oui, ça va marcher, mais nous, on est là pour parler à des coureurs amateurs qui ont bien d'autres choses à faire dans leur vie, et heureusement. Et du coup, je trouve que notre job, c'est de réussir à, en fait, avoir le meilleur rapport qualité-prix, mais c'est pas ça, le meilleur rapport rentabilité de l'entraînement versus le temps passé, en fait. Et si on est capable de faire progresser des gens beaucoup avec du 4 fois par semaine, eh ben, on devrait être très content, et on l'est. Mais la tendance aujourd'hui, c'est peut-être de dire, ah mais non, mais du coup, je devrais faire 5, 6, 7, 8. C'est ce que je peux faire. Parce que moi, j'ai atteint... Moi, ça ne marcherait plus à 4, je le sais.
Oui, désolé de te décevoir, Nico. Ça va coincer un peu avec 4 séances.
Mais je trouve que c'est... Je trouve qu'on peut faire beaucoup, en tout cas avec ce qu'on a comme méthode aujourd'hui. À l'époque, quand je m'entraînais, c'est sûr que mon 4 fois était forcément moins optimisé que ce qu'on peut proposer sur Campus aujourd'hui.
Bah, c'est vrai que moi, ça me fait toujours rire... Bah, parce que c'est des logiques aussi très instinctives. Quelqu'un qui prépare un marathon, il va se dire quoi ? Bah, faut que je cours allure marathon le plus longtemps possible et le plus souvent possible. Et si je peux faire que ça d'ailleurs, ça serait peut-être pas mal. Et c'est là où l'aspect spécifique des préparations a sa limite, trouver aussi le juste milieu. C'est bien, mais en fait, faire ça, c'est s'entraîner comme en 1900. Le record du marathon en 1900. C'était pas 2 heures, hein. C'était pas 2 heures et des brouettes, c'était pas terrible. Je sais même pas pourquoi je te dis ça. Par rapport à ce que tu disais, l'optimisation de l'entraînement, oui, donc on a beaucoup amélioré les méthodes d'entraînement depuis. Ce que tu dis, je pense, pour un amateur, c'est la différence principale avec, avec un athlète de haut niveau. C'est soit tu fais juste, soit la course à pied est une fin en soi. Très souvent, d'ailleurs, le chrono va même pas t'intéresser tant que ça, dans le sens où c'est plus le plaisir de courir, etc., qui va t'intéresser, et le plaisir de partager des moments ou ces choses-là. Mais pour beaucoup d'autres, c'est la course à pied sert d'outil pour le reste de ta vie. Et donc, en fait, c'est quel est l'investissement minimal qui va pouvoir, par exemple, me rendre fier de ma préparation, va pouvoir me prouver des choses. Quel est cet investissement minimal qui va pouvoir me servir sur le reste de ma vie par rapport à tout ce qu'on a dit précédemment? Qu'est-ce qui va pouvoir m'apporter assez de preuves? Et en effet, bah pour certains, 3 séances, 4 séances, en plus d'apporter le strict minimum vital pour être en bonne santé d'un point de vue cardiovasculaire, va pouvoir être suffisant pour apporter suffisamment de preuves pour le reste.
Ça fait lien. J'ai plein de trucs en tête parce qu'en fait, pendant... Je pense que sur 40 minutes, on est passé sur plein de choses et en même temps, pas sur la trame que j'avais.
Oui.
Je m'en doutais un petit peu.
Question 2.
Je me doutais qu'avec nous deux, ça allait donner... Mais c'est très bien parce qu'en fait, le but, c'est aussi que ça soit une discussion et je voulais avoir plein de choses sous les yeux au cas
dans
où.
Dans le doute,
parce
oui,
que tu veux
c'est
pas
rassurant.
Te retrouver
hein.
En mode... mais en fait, c'est hyper intéressant comme ça et en fait, là où je voulais revenir, c'est sur le why, en fait, le pourquoi de l'entraînement. Et en fait, moi, la question qui m'intéresse fondamentalement en ce moment, c'est pourquoi les gens courent, pourquoi les gens se mettent à courir. Et en fait, comment on fait pour trouver cette raison profonde, en fait, qui peut faire que tout le monde... Et je parle de courir, mais n'importe quel sport, en réalité, me va très bien. En attendant qu'on lance Campus sur d'autres sports, ce qui n'est pas prévu. Hein. Ne vous méprenez pas, s'il vous plaît.
C'est pas prévu, c'est bizarre. Moi, j'ai eu un mémo comme quoi dans... non.
Extrêmement pas bientôt.
Ok, bah commençons par faire une liste de toutes les mauvaises raisons pour lesquelles les gens commencent à courir.
ce qui est une très bonne manière.
Allez, commence, vas-y, le premier.
Perdre du poids. Non. Non, mais en vrai, je trouve pas qu'il y ait de mauvaises raisons.
Oui, c'est pour ça que c'est
de
marrant.
Commencer à courir. Il y a juste des mauvaises attentes, peut-être, avec ce qu'on va en tirer. Et souvent, en fait, c'est même pas des mauvaises attentes, c'est la temporalité qui est pas bonne, parce qu'on peut obtenir, je pense, énormément de choses avec la course à pied, mais pas dans le timing qu'on imagine, que beaucoup imaginent au début, en tout cas. Mais
oui.
Revenons à toi.
Ah, pourquoi est-ce que moi je cours ?
Pourquoi tu as commencé déjà
moi j'aime bien parler des autres.
Pourquoi tu as commencé à courir ? En fait, qu'est-ce qui a vu qu'en fait tu dis que c'est pas forcément un plaisir ? C'est quoi qui a motivé ? On pourrait même aller plus loin en fait. À la base, ton sport, tu l'as dit, c'est les arts martiaux. T'en as parlé, t'as fait une vidéo dessus. Je pense que là, pour le coup, même si les gens te connaissent, il y en a une partie qui l'auront vue, mais elle commence à dater un petit peu aussi, je pense.
Ouais. Je me la suis remettée il n'y a pas si longtemps que ça parce que bah, forcément il y a un petit peu d'émotion. Il faut que les gens aillent chercher. Ouais.
Et du coup, bah, pourquoi les arts martiaux ? Pourquoi arriver à la course à pied ? Enfin, c'est quoi le cheminement de tout ça ? Qu'est-ce qui a amené Tristan à être là aujourd'hui ?
Je vais être très très honnête. Moi, ce qui m'a poussé à commencer les sports d'endurance, c'est je veux faire un Ironman. Donc, me rappeler exactement pourquoi, je pense que... Je pourrais me rappeler de différents trucs déjà parce que je trouvais ça très stylé. Faut être honnête, hein.
Je revois tellement Eric Flack dire la même phrase.
Oui, mais c'est pour ça que.
Avec son sourire et en vrai.
Mais ça m'a détendu parce que l'entendre dire ça et me dire est-ce que c'est une bonne raison de courir, est-ce que c'est une bonne raison de s'y mettre, ça m'a permis d'y penser. Et en fait, oui, c'est une excellente raison de s'y mettre. J'expliquerai juste après pourquoi, si j'oublie pas. Ça c'est la première chose. Deuxièmement, ce qui est très vite arrivé, c'est que ça m'a permis d'appliquer en fait mes connaissances théoriques que j'ai acquises au cours de mon parcours universitaire. J'ai une licence TAP, c'est un master en physiologie du sport, et c'est très cool de savoir que si tu fais une séance de X fois 30-30 à VMA ou à 105% de VMA dans ton corps, ça va changer tel truc. Savoir ce que ça fait de courir à 105% de VMA pendant 30 secondes, c'est quand même un autre délire et ça te permet de rentrer dans une nouvelle dimension. Donc ça a très vite pris ce truc-là de « Ok, c'est stylé, je m'y mets. Ah, c'est bien, ça me permet d'éprouver aussi mes connaissances théoriques et bah, de commencer à créer mes raisonnements. » On pourrait dire ma méthode, mais en fait, qui n'est pas ma méthode, c'est juste comment s'entraîner de manière logique et suivre des grands principes qui font du sens. Développer ma logique interne, on va dire ça comme ça plutôt. Et donc ça a vite pris le pas dessus. Et après, ce qui m'a fait continuer, moi, je pense que le fait de faire des vidéos a beaucoup joué en me disant j'ai un impact et je peux partager des choses. Alors, connaissances scientifiques, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Je le fais ponctuellement, pas toujours, mais j'essaie toujours d'apporter beaucoup de connaissances et de poser des petites questions. Voilà, lancer une petite crotte de nez par-ci, par-là, si jamais il y a des trucs qui me dérangent. Ça, j'y prends beaucoup de plaisir, mais... moi j'aime bien aussi me dire le sport, de toute façon, faut que tout le monde en fasse. Motivons les gens à en faire et essayons, à travers le discours, à travers mon parcours, à travers mes exemples, de montrer que ça peut être possible, de montrer que ça fonctionne, de montrer que voilà, potentiellement tu peux commencer à 20-21 ans, faire 90 kilos et pourtant faire un Ironman en moins de 9 heures. Je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans où c'est une course où ok, venez, on monte tous dans le train, on se hype tous ensemble, on se monte la tête et on voit jusqu'où ça fonctionne. Et je sais que dans la traînée, ça va tirer énormément de gens vers le haut et qu'il y a énormément de gens qui se sont lancés dans ces processus et qui se sont mis des objectifs. Ah, un petit réveil, ça c'est pour la sieste d'hier, 18h50. Vous savez qu'à cette heure-là, en général, je dors. donc il y a des gens qui montent dans le wagon et ça les tire vers le haut, et il y a des gens aujourd'hui qui sont bien meilleurs, enfin même pas des gens, il y a énormément de personnes qui sont bien meilleures que moi et qui à un moment donné, peut-être sur une séance difficile, même si c'est sur une séance où ça leur a permis de se relancer sur 2-3 séances, c'est bon, tu vois, j'ai joué à 0,0001% dans leur préparation, mais il y a un moment je lui ai apporté un petit truc et c'est toujours ça. Il y a des gens à qui j'apporte beaucoup plus. Je pense que ça, pour moi, ça a beaucoup beaucoup joué. Et après il y a l'aspect professionnel aussi qui a joué là-dedans. S'il n'y avait pas eu Campus, s'il n'y avait pas eu les coachings, s'il n'y avait pas eu cette volonté, je pense que je ne me serais pas entraîné 28 heures dans une semaine, quoi. Il n'y a aucun moment dans ma vie où je me serais dit que c'était une bonne idée. Et toi, pourquoi tu cours, Nico? Parce que c'est stylé.
Il m'a retourné ma question, mais je ne sais même plus quelle était ma propre question. J'étais déjà sur le...
La biche pris
non,
dans
en vrai, phares. En vrai, c'est intéressant parce que je dis souvent que s'il n'y avait pas tout ça, je courrais quand même. Et oui, j'en suis convaincu, mais en même temps, c'est toujours compliqué de se mettre dans une situation autre. Est-ce que je courrais autant? J'en suis pas certain. Je pense qu'en fait, tout est un contexte qui te met dans... On n'est pas des hamsters, mais tu es quand même dans une roue qui fait que... Il y a une logique dans tout ce que tu fais. Et en soi, je pense qu'en effet, un peu comme tu disais, de montrer l'exemple, d'essayer de montrer ce qu'on fait, comment on le fait, et surtout de pouvoir l'expliquer, en fait. Parce que c'est pas juste de montrer, regardez, je cours des marathons. Ce que j'aime, c'est la création de contenu et de pouvoir le documenter d'une manière ou d'une autre. C'est comme courir un marathon avec une GoPro ou pas. Quand on a parlé d'être 2h30, tu m'as pas demandé si j'allais enfin poser ma GoPro pour...
Non.
Ça fait partie du truc pour moi, en fait. Je trouve ça et je le documente à ma manière. C'est pour ça que ces podcasts, en fait, Endorphine, j'en ai fait 8. J'ai toujours ce syndrome de l'imposteur fois 1000 parce que je suis en... Ouais, bon, là, c'est peut-être le truc de trop de parler pendant une heure tout seul face à ton micro de course... Et en fait, les messages que j'ai, c'est « Ah bah non, ça accompagne nos sorties, et puis ça fait réfléchir. » Bon bah ok, en fait, si c'est ça le retour, ça me va. Parce que mon but, j'ai envie de dire, c'est de faire réfléchir les gens et de les faire progresser dans leur tête, physiquement avec Campus, mais les faire progresser dans leur tête beaucoup plus vite que moi, j'ai pu progresser. Si ça m'a pris 20 ans à en arriver là dans ma réflexion, mon but, c'est que les gens, ça leur prenne... 3-4 ans, on va dire, ce qu'il faut pas... Il y a quand même des choses pour moi où en fait tu ne peux pas les apprendre sans les faire, te tromper et évoluer en fonction. On peut éviter des erreurs évidentes à plein de gens, ce qui est très cool, mais il faut quand même faire des erreurs et se dire « Ah oui, bon d'accord, ça c'était pas parfait, la prochaine fois je le ferai mieux. » C'est juste qu'on donne des raccourcis. En fait, à chaque fois, il y a plusieurs routes. Nous, on dit attends, celle-là et celle-là, c'est vraiment de la merde. Au moins, va dans. On te dit celle-là, mais tu vas te tenter de prendre celle de droite. Au moins, tu vas pas dans le mauvais sens et tu repars pas en arrière de 6 mois. Quoi.
On sait que sur tous les conseils qu'on va te donner, tu vas vouloir en tester 50% parce que t'es en mode hey, en vrai, il dit ça, mais bon, voilà. Au moins, les 50%, on sait qu'on t'en a évité certains.
C'est ça. Je pense notamment à. On est à un, je répète, hein, je rabâche, mais on est à un mois et quelques d'un marathon, du marathon de Paris. C'est le moment d'aller tester les gels et je fais exprès de provoquer là-dessus parce que sur mes 2-3 premiers marathons, j'étais à du 30 grammes par heure et c'était pas suffisant et j'ai pris des murs assez méchants. Et en fait, j'ai encore le souvenir de ce que c'est et je vais essayer de l'éviter à d'autres. Maintenant, si la meilleure manière de l'apprendre, c'est de le faire, vous me regarderez dans un mois et vous direz « Ah merde, il avait raison, le con !» C'est pas grave, mais...
Mais donc, quelque part, il y a aussi ce truc de « tu sais que ça sert, tu sais que plus tu t'améliores personnellement, plus t'impactes des gens. » Et ça t'aide à aussi te repousser, toi, et à passer la pilule de courir sans bande toutes les semaines.
C'est vrai. C'est vrai. Je... Je suis parti dans mes pensées sur cette phrase. Du coup, je change de sujet, parce que sinon, on va encore continuer. Mais il y a un sujet sur lequel je voulais revenir. Bon, ça commence à dater un peu, je ne sais plus quand est-ce que j'ai pris ces premières notes, mais à l'automne ou en début d'hiver, il y a Sam Laidlaw qui a parlé de la dépression post-grosse course. Sujet que j'ai un tout petit peu évoqué, je pense, tout à l'heure, mais pas en détail. Mais ça m'a permis, en fait, quand j'ai vu ça, de repenser à... Parce que je pense que cette dépression est d'autant plus grosse que l'objectif est gros.
Ouais.
J'ai envie de penser. Et que l'investissement a été gros dedans. Et je pense qu'en fait, ça, tout le monde le vit dans tous les cas. Après une grosse course, il y a toujours une phase de down. Et je voulais qu'on puisse revenir un petit peu sur toi, 2022. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Qu'est-ce que t'en as appris maintenant qu'on est vraiment quand même sacrément à froid de tout ça ? Mais des fois, plus c'est un événement gros, plus il faut de temps pour vraiment revenir dessus aussi. Et je pense que c'est intéressant d'avoir tes apprentissages de ça et que moi, ça m'intéresse et que tout le monde puisse aussi se dire comment je rebondis, comment j'avance et comment toi, tu t'en es servi pour être meilleur aujourd'hui.
Pour moi, le syndrome de dépression post-course, pour ce qu'on pourrait appeler comme ça, son origine principale, c'est parce que tu t'investis énormément dans une quête, dans la quête que tu penses être franchie à la ligne d'arrivée. Et au moment où tu franchis cette ligne d'arrivée, le plaisir que tu ressens par rapport à l'investissement est très très petit. Et tu te rends compte que quand tu te lèves le lendemain, t'es pas très différent de comment t'étais la veille. Et c'est cette différence-là qui potentiellement peut créer un certain déséquilibre. Moi, je le vois vraiment comme ça. Et c'est pour ça que, tu vois, tout à l'heure, je te disais, comment vouloir courir un marathon d'Ironman parce que c'est stylé. Mais en fait, pourquoi ? C'est parce que c'est stylé, parce que ça demande de s'entraîner régulièrement, d'être discipliné, de s'investir sur le long terme, de faire une préparation longue, de pouvoir planifier, d'avoir des projets, blablabla. Donc en fait, c'est ce que les gens te renvoient et l'image de toi qui est renvoyée dans le regard des autres que tu trouves stylé. En fait, c'est ça en réalité. Mais le truc, c'est en fait, est-ce que c'est vraiment le fait de l'avoir fait ou est-ce que c'est le fait d'avoir fait ta préparation et en fait d'avoir démontré ses qualités qui est important ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que, imagine, je peux te dire demain, je dis à quelqu'un là qui nous écoute, qui prépare son marathon, ok, en fait, arrête la préparation, je te donne cette pilule-là et demain, tu cours ton marathon sans souci et en fait, c'est bon, t'as ta médaille, tu vas pouvoir avoir ta preuve sociale, etc. Bah, en fait, tout le monde...
Ça perd de sa saveur.
En fait, ça te sert à rien, t'as une médaille, t'es en mode bouffe. Tu vois, par exemple, j'étais sur l'Ironman de Nice cette année, je suis rentré dans une salle, t'avais un carton, j'avais 3000 médailles, finisher. Qu'est-ce que je fais ? J'en prends une et puis je la mets sur une étagère, je fais genre j'ai fait l'Ironman. Bah non, c'est claqué au sol, tu vois. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est de s'entraîner pour... Donc tu vois, quand je dis ça peut être une bonne idée de commencer parce que c'est stylé, parce qu'en fait, toi, tu te dis, ah, je vais renvoyer une image de ouf dans les yeux des gens. Tu fais ta préparation, tu fais ton Ironman, etc. Mais en fait, ce qui est stylé, c'est que tu corresponds à l'image que les gens ont de toi. Ou plutôt, tu corresponds à l'image que tu pensais que les gens auront de toi. En vrai, les gens s'en foutent. Hein. Je vous le dis, désolé que vous avez fait un marathon. À part votre mère, votre sœur et peut-être votre copine si elle est gentille, tout le monde s'en fout. Ce qui est important, c'est juste que voilà, vous allez pouvoir faire preuve de discipline dans le reste de votre vie. Vous allez pouvoir être quelqu'un de bien, vous allez pouvoir, etc., etc. En fait, c'est ça qui importe vraiment. Donc, vous allez correspondre à l'image que vous imaginiez de vous à la fin de votre préparation. La médaille est un bonus et fait très bien sur une étagère. Ça revient. Répète-moi ta question que tu me disais.
La dépression post-course.
Ah oui, donc la dépression post-course. Donc voilà, déjà, ça faut le réaliser.
Ouais, c'est vrai.
Pour moi, ça c'est déjà la base. Ok, j'ai acquis des choses, ça c'est très cool. Maintenant sur le cas de Kona en particulier, là c'est un peu particulier parce que j'ai raté la course, ce qui rajoute un petit truc de je me suis beaucoup investi, j'ai beaucoup construit de choses sur cette course. C'est les championnats du monde amateur, donc tu vois, c'est le rêve de beaucoup, machin, c'était mon rêve, et tu rates ta course.
Mais tu vois, en soi, réussir, rater, ça a pas l'air d'avoir une grande différence, parce que lui il a fini champion du monde et pour autant le vide a été était énorme. Bon, en même temps, lui, c'est ok, j'ai coché le truc que je voulais faire. Bah, il n'y a plus rien maintenant.
Ouais, c'est ça. J'ai tout construit pour ça. Bah après, bah, ça lui apporte sûrement un peu d'argent quand même, ce qui est toujours ce qui permet de. Tu sais, c'est. Je sais pas si t'as vu. Comment ça s'appelait? Zombie. Ah, je sais plus c'est quoi ce film où en fait, bah, du coup, l'argent n'a plus de valeur, etc. Et t'as un mec qui pleure et il s'essuie avec des billets les yeux. Bah, ça permet de voilà, d'amortir un petit peu sa peine, on va dire. Mais ouais, le but, c'est juste de. Après. Retrouver qu'est-ce en fait c'est ça c'est qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je veux faire qui je veux devenir c'est juste ça je suis devenu tout ce que je rêvais de devenir qui je veux devenir maintenant et tu vois, je pense que c'est ça qui va lui permettre de rebondir est-ce que je veux devenir un décuple comme ça oui décuple champion du monde quintuple champion du monde est-ce que c'est ça la personne qui veut devenir ou est-ce que bah lui ce qu'il laissait entendre c'est bah, je veux que de ce succès-là je puisse impacter positivement d'autres personnes à se motiver, à faire du sport, à plein plein de choses. En fait, qui est un discours au final très similaire à ce que nous on pourrait donner, à ce que des entrepreneurs pourraient donner. La seule différence, c'est qu'en effet, Michael Jordan, il a motivé beaucoup plus de gens que nous on pourra jamais en motiver. Bon, voilà.
Je pense que ça, on peut se dire que ça ne bougera pas.
Ça, je pense qu'on peut
on
être
est
d'accord.
tranquille.
Voilà. Tu vois, enfin, tu prends des gens, je sais pas moi, Lewis Hamilton, je sais que t'aimes la Formule 1. Tu vois, as vraiment des grands noms comme ça dans leur sport. Bah, je pense que c'est ça la nouvelle quête qui va vouloir avoir, mais ça demande tellement de choses différentes que juste s'entraîner que tu as forcément un moment déstabilisant où tu te dis waouh, en fait là je m'entraîne 25, 30 heures par semaine, ça va pas suffire pour répondre à mon nouveau projet, et pour autant pour réussir mon nouveau projet, va falloir que je continue à m'entraîner 25, 30 heures parce que sinon j'aurai pas la même aura. Tu vois, tu prends bref, j'ai pas son nom, mais tu prends Michael Jordan. Bon, bah, il a impacté positivement sur le long terme parce qu'il a été fort, pas qu'une seule année. Il a reproduit, et c'est là quand t'es athlète de niveau que c'est difficile. Alors que nous, en tant qu'amateurs, on a cette chance, on peut devenir plein d'autres choses.
Oui, puis personne nous attend et ce qu'on fait sera bien. Dans tous les cas, il y a
Ouais.
pas de... le bien est subjectif pour nous. Alors que quand tu parles de champion du monde, bah, il est très objectif. C'est t'es champion ou tu l'es pas.
Ouais, c'est ça, c'est
Si t'es deuxième, bah
binaire.
c'est oui, c'est bien. T'es le deuxième meilleur du monde, mais on te retiendra pas pour avoir été X fois deuxième.
Ah, c'est bizarre, t'auras bizarrement beaucoup moins de billets pour essuyer tes larmes pendant ta période de
Bon, si tu
dépression.
parles de la Formule 1, deuxième, je pense que t'as
Oui, bon, ça
suffisamment de
va.
billets pour essuyer tes larmes. Mais
Est-ce que. Ouais, toi, t'es un. Tu vois, par exemple, moi, je serais incapable de te donner le numéro 2. Je sais que Max Verstappen est numéro 1 depuis 2 ans.
bah, c'est simple,
Après.
vu que Red Bull est largement devant, c'est son coéquipier,
Oui,
même si c'est une grosse
bah
daube,
c'est
donc.
vrai. Bon, parce que j'ai commencé à regarder la nouvelle saison. Mais bon, tu vois, c'est très difficile. Qui était deuxième derrière Usain Bolt? Qui était deuxième derrière Michael
Mais
Phelps?
il y a quand même une grosse différence, c'est que là, enfin, on parle de sport où ça dépend de ce que tu as entre les mains. Nous, on est dans un sport où il n'y a pas d'excuses. Enfin, c'est ce que j'aime aussi dans la course à pied, c'est que si ça marche pas, bon, tu peux te trouver des excuses, machin, c'était pas le jour. Enfin, ça arrive, mais une fois, deux fois, il y a forcément des raisons de rater. Mais à long terme, si tu as une personne qui rate tout le temps et qui te sort toujours des excuses, peut te dire qu'il y a autre chose comme
Oui.
problème. Enfin, on peut pas se cacher
Éternellement.
indéfiniment derrière des excuses. Les excuses, ça reste des exceptions. Si on n'a pas de chance, ça peut arriver plusieurs fois de suite, hein. Faut pas l'exclure. Si vous avez raté 3, 4 courses parce qu'il y a toujours eu un truc qui vous a fait chier, vous avez juste pas de chance. C'est très possible.
Statistiquement, oui.
Malheureusement, ça arrive. Moi, j'ai eu de la chance, mes 4 derniers marathons, je croise les doigts pour un cinquième, mais les conditions ont toujours été bonnes. Et bah, c'est un gros plus, c'est une grosse chance. Et en fait, peut-être que sans ça, j'aurais pas eu la progression qu'il y a eu ces dernières années. Faut se le dire aussi, hein, mais je sais plus où j'étais
Mais du
avec
coup,
ça.
la question après, c'est imagine demain tu rates ton marathon. Qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que tu fais?
Moi, dans mon caractère, je pense que ça me rebooste encore plus parce que je vais avoir envie de défoncer le prochain. Et potentiellement, ça pourrait être. Des fois, je me disais que ça aurait pu être une bonne chose que je me prenne une tôle à Valence, mais une vraie. Ou après, tu te dis, bon, ok, je sais ce qui n'a pas été. Là, en fait, quand finalement ça
Moi,
marche quand
ça m'aurait
même.
emmerdé parce que c'était le premier pour lequel j'étais préparé. Je vais pas te mentir que ça m'aurait un peu embêté. Personnellement,
Bon.
mon ego, bon. Mais oui, je comprends, je comprends.
Mais tu sais, je sais qu'il y a des choses qui n'ont pas été. Qui sont de mon ressort, entre guillemets. On ne peut pas tout maîtriser. Mais du coup, quand finalement le résultat est là à la fin, tu peux avoir tendance à dire bon bah finalement ça a été hein, et d'oublier les côtés négatifs et de pas au moins quand ça marche pas, peut-être t'as le petit coup de couteau
Ouais.
qui fait ça et qui te dit bon ça a pas marché, tu vas pas te cacher derrière, tu sais qu'il y a des choses à améliorer. Et je pense que c'est important. Et en fait, si je reviens au sujet dépression, pour moi, il est lié à ne pas avoir d'objectif.
100%.
Et en fait, cet hiver a été un peu lié à ça aussi de mon côté, parce que oui, il y a un 10 km qui arrive, mais j'avais dit dès le début, oui, mais c'est pas l'objectif de l'année, c'est pas grave. Bah, en fait, je pense que ça, c'est une erreur, parce que du coup, une fois que tu as dit ça, bah, en fait, tu prépare pas de la même manière en fait. J'ai eu du mal à remettre mon état d'esprit dans le bon sens parce que je suis en mode, ouais, mais comme on s'en fout un peu de ce 10K, au final, bah, c'est quoi mon intérêt à aller m'entraîner? Alors que quand tu as un objectif qui est dans un horizon pas trop lointain, Amsterdam en octobre, en fait, c'est trop loin.
Ouais.
C'est en janvier, c'était genre dans 8, 9, enfin, quand il faut compter déjà, c'est mauvais signe. Et quand c'est trop loin, c'est dur. Enfin, tu vas me dire le contraire, parce que toi, tu as réussi à te préparer pendant un an en pensant uniquement à Kona, et pour le coup, la prépa, il n'y a pas eu grand-chose à te dire sur le sérieux pendant cette prépa. Enfin, en tout cas, moi, j'ai rien vu extérieurement.
Oui, bah, t'as toujours des choses, beaucoup de choses à améliorer a posteriori, des choses que tu
Oui.
ferais différemment, etc. Je ferai un peu plus de sorties longues à vélo en hiver, par exemple. La pluie et le froid ne seraient plus une excuse pour les prochaines prépas. Et oui, je vois ce que tu veux dire.
Mais ouais, la notion d'objectif, pour moi, elle est. On ne peut pas s'en passer, quel qu'il soit.
Tiens, je vais te prendre un exemple dans ton cas. Est-ce que... Alors, se fixer un objectif pour le marathon d'Amsterdam, c'est lointain. Mais est-ce que si je te disais, ok, en fait, tu vois, l'un des leviers que tu peux activer, c'est d'être hyper régulier sur ton année d'un point de vue kilométrage hebdomadaire. Et donc, en fait, là, le but du jeu, c'est on s'en fout un peu de ce qui va se passer à Amsterdam. On sait que ça risque de bien se passer, mais le critère de réalisation que je te donne, c'est de dire, viens, on essaye sur un an lycée d'avoir 85-90 km hebdomadaires en prenant en compte les bas, en comprenant en compte les hauts. Et donc, en fait, là, si tu as ce truc, ce critère-là, bah c'est beaucoup plus simple parce que tu sais que chaque semaine compte. Et en fait, même quand ça va mal, tu sais que 90 km, tu peux les courir aujourd'hui. En plus, tu sais que la fin de la prépa, tu vas mettre, voilà, statistiquement, elle va beaucoup t'aider. Les 15 dernières semaines vont beaucoup t'aider. Mais tu vas avoir ce truc-là, est-ce que ça t'aiderait?
Oui, et en fait, c'est bah oui et non, parce que ça, je me l'étais dit en début d'année. Je pense dans mon premier épisode en janvier, je m'étais dit là, cette année, le but c'est d'être le plus régulier possible, average entre 80 et 100 toute l'année. Et en fait, je pense que j'en ai pas été si loin en réalité. C'est peut-être plus le vécu versus le réalisé aussi qui, des fois, donne une impression un peu faussée de. T'sais, je pense que si on regardait mon Strava, on dirait bah ça va en fait. Mais ça va, c'est pas suffisant. Enfin, pour moi, ça va, c'est average en fait, c'est moyen. Si tu veux, c'est dire non, il y a un. Bref.
Mais parce que c'est je sais plus ce que je voulais dire, mais je vois parce que encore une fois, c'est qui est-ce que tu veux devenir et qu'est-ce que enfin quelle est la personne que tu veux montrer, quoi. C'est ça un petit peu. Donc si tu dis que tu veux être régulier, tu veux montrer que tu es une bête de régularité. J'ai dit que je serais régulier, regardez. Regardez la courbe, elle est toute plate.
Ouais, mais je pense que c'est le côté montrer ce qu'on fait aussi qui fait ça. Je pense qu'il y a un biais là-dedans.
Tu vois, dans cette quête-là, c'est important parce que bah, toi, ta quête de toujours plus rapidement, finir tes marathons. J'ai bien rattrapé la phrase parce qu'elle était très mal partie d'un point de vue grammaire. Potentiellement, tu vois, c'est pas une quête que tu peux continuer à vitam aeternam. Et en fait, c'est souvent peut-être ça aussi le down après une course. Moi, je prends un exemple. J'ai entraîné l'année dernière quelqu'un pour l'Ironman de Nice. Père de famille, chef d'entreprise. Il se fixe 8 mois. Tu vois, il s'entraîne déjà un petit peu. Il se fixe 8 mois pour se préparer sur 8-10 mois pour se préparer pour son Ironman. Il fait une préparation. Tu sais, ça fait partie de ceux que tu rentres dans les annales tellement c'est parfait. Tout est bien, ça progresse comme tu veux, tout est idéal, mais ça finit. Et donc du coup, après, il fait quoi? Parce qu'il sait que bah, il a fait une belle performance en plus le jour J, il pourra sûrement pas faire plus parce que ça voudrait dire soit repartir sur une année professionnellement et personnellement, c'est difficile. Soit ça voudrait dire, en plus, peut-être s'entraîner un peu plus. Ça aussi, c'est difficile. Donc, qu'est-ce que tu fais après? Et tu vois, c'est là où ça peut être difficile pour les gens de trouver un objectif. Et toi, c'est peut-être là aussi où ça sera difficile ou pas de trouver un objectif à partir du moment où tu franchis les 2h30. Et là, en plus, c'est une grosse barrière horaire, tu vois. Et tu te dis, ok, je m'en satisfais. Imagine, tu te dis ça. Maintenant quoi? Parce que ça sera pas de 27. Ça sera pas de 25. Ou peut-être de. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire?
Mais je.
C'est là où tu peux saisir la personne et dire, alors, ah, et là, moi, mon petit gars, après le marathon de Nice, j'ai pas la réponse pour toi, parce qu'il va falloir trouver autre chose. Tu vois, ton objectif de vie, il va falloir devenir autre chose que quelqu'un qui va plus vite sur Ironman. T'es devenu un Ironman, c'est bon, trouve autre chose maintenant.
Moi, j'ai une idée de. Mais en fait, ce que je te dis aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, ça sera plus vrai. Parce que dans tous les cas, anticipe. Moi, je pars du principe que de dire ce qu'on va penser dans 6 mois, ça sert à rien. Parce que dans 6 mois, tu seras une autre personne dans tous les cas. Mais mon point de vue aujourd'hui, c'est que 2h30, ça ne vaudra pas le coup de s'investir plus pour avoir plus. Et de toute manière, ça ne changera pas grand-chose. Enfin, pour moi. Déjà, c'est symbolique. En réalité, je l'ai dit, si j'arrêtais aujourd'hui avec 2h33, ça va très bien. Je n'ai pas de problème. J'ai gagné 35 minutes sur marathon. C'est très cool. Ça me va. J'ai raconté ce que j'avais à raconter. Maintenant, bon, on va pas se cacher que la petite barrière des
C'est
2h30
chiant parce
quand
que c'est
même.
pas rond. Tu sais, c'est comme quand t'écoutes la télé et le volume est sur 14. T'as envie de mettre à 15, mais c'est trop fort.
On est là.
Oui.
On est là. Tu te dis, bon, maintenant, quand même, à 3 minutes de cette barrière qui est quand même un peu, qui est forte. C'est comme le gars qui est à 3h03 au marathon.
Bah oui.
Ou à 4h. En fait, toutes les barrières comme ça, tu dis,
C'est
ouais,
con,
mais j'ai pas le choix, en fait. Je sais pas pourquoi.
C'est con.
On est comme ça, mais tu dis, ouais, mais là, il y a un sentiment il faut y aller.
C'est pourtant si proche.
Mais, en soi, là, si vraiment. Enfin, que j'y arrive ou que j'y arrive pas, en soi, mon objectif est en train de shifter vers un truc qui revient plus vers le fondement profond de. Pourquoi je cours et pourquoi on fait tout ça, qui est autour de la longévité. Et je trouverais ça bien plus parlant pour moi de dire combien de temps je peux tenir un 2h45, le plus longtemps possible, que de vouloir gagner des minutes à partir de là. C'est de me dire, je m'en fous. Après, je juste, est-ce que je suis capable de courir 2h45 à 60 ans, qui est dans longtemps quand même,
Oui.
dans 25 ans?
Va falloir continuer à le suivre, hein, parce que là.
Mais tu vois, ça, c'est un autre type d'inspiration, en fait. Je trouve que dans notre communauté, en plus, on a de tout. On a des très jeunes, on a des très vieux. Je sais qu'on a déjà vu, enfin, très vieux, pour courir. On a du 80, hein. J'ai déjà vu ça sur campus. J'aimerais bien être encore capable de courir à 80, hein. On va pas se le cacher, ça serait un objectif de vie. Et ben, en fait, si tu veux continuer d'influencer, il faut aussi prendre en compte ton âge et pas vouloir faire des trucs de personnes de 25 ans quand on n'a plus 25. À 35, ça va encore. Mais il y a un moment où si tu es encore là à 45, bon, arrête de jouer le minot de 20 ans, en fait, t'es plus ça. Et du coup, shifter sur comment je montre qu'en fait, moi, mon rêve, c'est de casser ce mythe de ouais, mais je suis trop vieux pour ça. Et on en a énormément sur campus qui sont inspirants de fou. On a des cinquantenaires qui sont sur du 2h45 au marathon. On peut vous les sortir des exemples, il y en a des tas. Et on le fera d'ailleurs. Je pense qu'à un moment
On va
aussi,
sortir
on
la liste.
va dire, regardez, ça marche, ça progresse toujours. Enfin bref, il n'y a pas de limite pour moi.
Ah, c'est un bel objectif.
Et j'aime ça. Et
Ça
ça
fait
me
du
fait.
sens.
Vas-y, j'allais
Ah, ça
encore
fait du
partir
sens,
sur
mais
autre
c'est
chose.
surtout tu laisseras aux petits jeunes qui arriveront sur YouTube le plaisir de montrer que c'est possible d'aller très très vite et toi tu partiras sur autre chose. Non, c'est très réaliste et très pertinent et même très intéressant. Tu sais, comme tu dis, déjà dans 6 mois, on ne sait pas trop ce qu'on sera, ce qu'on fera ou quoi que ce soit. Ce qu'on peut être sûr, en tout cas, normalement, c'est que tu as le droit de changer d'avis, tu n'as pas le droit de changer de valeur, parce que tu as des bonnes valeurs, évidemment. Mais donc dans 30 ans, encore moins. Tu sais, je vois bien le truc en mode une vidéo par an ou tous les 2 ans, parce que bon, tu auras peut-être autre chose à faire, et où tu dis, hey, salut, on s'est pas vu depuis 2 ans, je cours mon marathon, on a dit 2h45, est-ce que ça va
Je
tenir?
suis là.
Et tu vois, et la personne, tous les 2 ans, elle aura le plaisir de dire, putain, Running Gris, ça fait longtemps, j'en ai pas entendu parler. Il avait dit, il était dans sa quête là. Et là, il tombe sur la vidéo. Mais non! Ça va être plus attendu que la Coupe du Monde de football.
Ah, c'est un. ça prend le temps, donc tu peux en parler, mais en fait, il n'y a que les années qui peuvent dire si tu le fais ou pas. Mais tu sais, pourquoi 2h45, je prends ce chrono-là un peu par hasard. En réalité, ça pourrait être 3h, parce que déjà, si tu maintiens un 3h au marathon à 60 ans, si tout le monde maintenait rien que d'être capable de courir un marathon, on irait très très bien. Hein. La santé publique se porterait, à mon avis, très bien. Oui. Mais bon.
Ils diront qu'il y a beaucoup de frais de kiné. mais quelque part, tout ce que t'évites, au-delà de ça, d'un point de vue sanitaire, ça vaut largement le coup d'avoir 2-3 tendinopathies, excusez-moi les kinés. C'est largement rentabilisé.
Ça me permet de transitionner sur quelque chose qui n'est pas écrit, hein, parce que vu qu'on est dans le... Mais une question que... Enfin, un sujet qui m'intéresse, de dire la différence entre les allures que tu peux tenir aujourd'hui. Bon, je vais prendre le Tristan en forme et on est à peu près le même niveau, grosso modo.
Tu ne trouves pas en forme en ce moment?
Je ne t'ai pas vu courir récemment. Je ne t'ai pas vu sur Strava beaucoup. J'ai vu des sorties de vélo, mais peu de course à pied.
Imaginons.
Imaginons que tu es le Tristan qui a couru avec moi cette fameuse séance de 10 x 800 mètres il n'y a pas si longtemps.
Bord de mer de Biarritz. Ah non, 10 x 800, c'est...
Ah, c'est vrai qu'on a fait des 800 à Biarritz aussi. Oui. Mais là, c'était plutôt toi qui étais en forme et moi qui essayais de me raccrocher.
Bah, voilà. C'est pour ça que...
On a fait dans les deux sens.
Bizarre que je me sois souvenu de celle-là, du coup.
Ouais, mais l'autre, elle avait un contexte particulier avec 1 million d'exercices de renfort avant. Donc, bref, pourquoi je parlais de ça? Ah oui, imaginons que nous courons, que nous avons le même niveau, c'est-à-dire la réalité. J'essaie de remettre mes pensées, en fait. Parler du 2h45. Oui, revenir en fait à ton premier marathon, mon premier marathon, et dans le côté, les coachs ne sont pas parfaits. Moi, je peux dire que mon marathon, mon premier, il n'avait absolument rien de parfait. Il était même l'imperfection absolue. Toi, tu l'avais quand même beaucoup mieux préparé, à mon avis, ton premier que moi, non?
Bah, je sais pas à quel point tu l'as mal préparé, mais bien.
Ah, bah, très très mal.
C'est-à-dire qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Mieux préparé, c'est possible. Bien préparé, non, pas du tout. On est très très loin. Moi, je pense que mon premier marathon, je l'ai couru en 3h15 à Amsterdam, justement. Comme quoi.
Beau parcours.
Oui, donc je peux te dire, c'est un très bon parcours. Ma préparation, je devais m'entraîner 3-4 fois dans la semaine de tête avec un peu de vélo, un peu de natation en parallèle. Pas beaucoup. Peut-être une séance vélo, une séance natation, quelque chose comme ça. C'était mes débuts, mes tout débuts en 2017. Ma sortie la plus longue, ça devait être 1h30 ou 1h35.
Ah.
Mais parce qu'en fait, tu sais, j'avais le truc instinctif de « écoute, c'est très simple ». Au lieu de vouloir courir 2h30, je vais juste courir 1h30 de plus en plus vite, semaine après semaine. Ça fait tellement de sens.
C'était assez similaire au final. Je me suis rendu compte que les sorties de plus de 2h, il n'y en avait pas. Il y avait eu 2h et quelques minutes. C'est tout. Et en fait, en voyant ça, j'étais horrifié de me dire que je me suis présenté au départ. En fait, c'est là où je dis que ce qu'on apporte aux gens qui s'entraînent sur campus se rendent pas compte à quel point c'est 1000 fois mieux que ce que même nous on pouvait faire en ayant 2-3 connaissances il y a quelques années. Moi c'est 2016, toi un peu moins loin, mais bon,
2017,
c'est loin
mon premier marathon.
Un
an près,
donc bon, on a évolué depuis.
Et puis parce que 3h15, il y a beaucoup de personnes qui voudraient courir leur marathon en 3h15, donc quand on leur dit qu'en plus on a fait n'importe l'entraînement, les gens ils comprennent pas. Mais moi, j'aime bien toujours remettre dans le contexte, juste avant, quelques mois avant, mon premier chrono sur 10 km c'est 46 minutes. Pareil, beaucoup de gens qui voudraient faire 46 minutes, faut le remettre dans le contexte. Je suis en 2017, première année de master, donc je viens de finir ma licence TAPS. Je faisais entre 15 et 20 heures de sport par semaine. J'étais au pic de ma condition physique. J'étais à 8% de matière grasse. J'étais écorché comme jamais j'ai été écorché. C'était ça, en fait. J'étais comme ça.
Ouais.
Et donc, 46 minutes pour quelqu'un en top shape, avec un cardio très bien entraîné, mais pas du tout pour ce type d'effort-là, c'est-à-dire en judo, des efforts de 5 minutes. Et en un martial vietnamien, des efforts de 2 fois 3 minutes. C'est pas du tout... Enfin, bon,
un marathon.
C'était pas très fort, mon cardio non plus. Je vais pas te mentir qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, c'est marrant parce que je me dirais, si j'appliquais 2-3 principes de base en termes de préparation physique, ce qu'ils appellent le conditioning, ce qu'ils appellent comme ça aussi en crossfit, je l'appliquerai, j'aurais quand même un bien meilleur cardio. Heureusement que par exemple en judo le combat se finissait avant les 5 minutes, parce que sinon sinon ça finissait par être un peu long. Bref, tout ça pour dire que bah voilà, en fait, dans ce contexte là 3h15 pour quelqu'un top shape dans un autre sport, en tout cas c'est pas déconnant non plus, tu vois. Et puis avec un peu d'endurance aussi, parce que tu prends, on a parlé d'Eric Flack tout à l'heure, hein, qui fait du calisthénique, il y a zéro composante d'endurance, donc lui il fait 3h30 pour son premier après 5 mois de prépa de qualité, puisqu'il l'a fait sur campus. On n'est pas du tout sur la même échelle.
Exact.
Ça, c'est une première chose.
Je le rappelle aussi, parce que moi aussi je dis, ah, ma prépa c'était n'importe quoi, 3h08. C'est pareil en fait, la réflexion pourrait être la même. Donc 2016, j'ai commencé à courir en 2004. Donc pour le coup, moi je courais. Ça faisait 12 ans que je courais. Donc même si tu fais pas les choses parfaitement, bon bah les années construisent quand même quelque chose.
Les kilomètres s'accumulent.
Donc vaut mieux courir 12 ans mal que de courir 6 mois bien, hein, en termes de progression, ça marche quand même mieux. Pas la meilleure méthode quand même, hein, parce que ça prend quand même un sacré paquet de temps.
C'est pas très efficace, oui.
Mais en réalité, j'avais un sacré paquet de kilomètres au compteur déjà, et des chronos qui ont évolué sur les distances inférieures. Enfin, je pense que 2016, je devais déjà être sur une 20 au semi, quelque chose comme ça. Donc bon, 3h08, quand tu le regardes comme ça, c'est plus si fou. Si je m'étais lancé dans un marathon en 2005, quand je venais après un an de course à pied, bon bah peut-être que j'aurais mon chrono à 4h30, parce que bah il y avait pas du tout les jambes, c'était pas les mêmes, hein. Puis quand je vois musculairement comment je galère sur marathon aujourd'hui, je pense qu'au début le marathon je l'aurais fini en rampant sérieusement si j'en avais fait un au tout début. Bref, je te laisse continuer.
J'imagine que ça t'a pas empêché de boiter quand même après ton premier marathon.
Oh mais je boitais après un semi-marathon à une époque. Je marchais, je descendais les marches comme sur un marathon après un semi à une époque. Donc je peux te dire
ça que... laisse un indice.
Oui.
Et c'était quoi donc comment s'est passé mon marathon? La prépa, bah la prépa, j'ai dit que c'était nul, donc
je pense qu'on a vite.
Oui, bah après je pourrais dire, tu vois, typiquement le petit EF couru en 4:30.
Pour cette époque-là.
Oui, bah c'est-à-dire que je courais à peine à cette vitesse-là dans ma préparation pour Kona, et entre-temps j'avais dû gagner entre, ouais, je pense au moins 12 minutes sur 10 km entre-temps. Donc
c'est vrai que
bizarre, tu vois.
Ça fait un paquet de temps que je fais des EF à 4:30 moi aussi, tiens. Pourtant, bah oui. Il me semble qu'à une époque, j'avais pas le niveau pour.
Ça fait 15 ans que je fais des EF à 4:30.
Il faut qu'aujourd'hui, le cardio est à 135. À une époque. Oh, bah, moi, j'ai eu l'époque où il n'y avait pas de cardio en plus. Donc, t'avais. Ouais, mais là, j'ai couru 45 minutes. On sait pas combien, on sait pas. C'est juste, j'ai un chrono et je cours et ça devait être sacrément n'importe quoi à cette époque.
Ah, et pas de preuve. En plus, c'est pas sur Strava. Normalement, peut-être que tu l'as couru en endurance fondamentale. Mais voilà, enfin, je veux dire, les grands classiques. Tu vois, typiquement, l'endurance fondamentale en STAPS, c'est un apprentissage qui n'existe pas. Alors là, personne ne parle d'endurance fondamentale en STAPS.
Dommage.
Peut-être que ça a changé aujourd'hui, j'espère, mais au vu des messages que je reçois très régulièrement en me disant « Ah, mais je comprends pas tel truc physiologique », alors que ça fait 30 ans qu'on dit que c'est pas ça, je suis en mode « Ok, d'accord ». Bon, il parle pas d'endurance fondamentale. J'en suis sûr, c'est bon.
Bad.
Bref, oui, donc après, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Les gens vont se reconnaître. Hein, bon petit positive split, l'allure qui commence à fléchir aux alentours de 24-25 km. Je voulais viser 3:15, je crois, et pendant 20 km, j'ai suivi le porte-drapeau, enfin, comment on dit, le lièvre de 3:5 ou 3:10, je crois. En me disant, franchement, 3,5, 3,15, allez, les jambes sont bonnes aujourd'hui, je sens que ça passe. Ça ne passe pas du tout.
Cette fameuse phrase que tout le monde connaît. Ouais, mais je pense que je le sens bien aujourd'hui.
Ouais, exactement.
L'expérience te fait dire que cette phrase, elle est toujours mauvaise, ou en tout cas, il ne faut surtout pas la surestimer.
Aïe, aïe, ça fait rire aujourd'hui. Mais c'est marrant, mais en fait, c'est... Parmi les gens qui nous écoutent, il y en a qui vont avoir exactement le... Tu sais, c'est marrant parce que... Il va y avoir deux catégories. Ceux qui nous écoutent, qui ne comprennent pas, ils vont se dire ça le jour J, ils vont comprendre après leur course. Et ceux qui viennent de faire l'erreur ou qui ont fait très récemment l'erreur et qui disent « Ah, si seulement j'avais entendu ce podcast plus tôt. » et après, ouais, moi, je me souviens que je devais monter les marches à l'envers après avoir fini la course. C'est-à-dire que j'ai fini la course, je me suis allongé Et Amsterdam, tu finis dans un stade. Donc pour accéder au gradin, il faut que tu montes des marches. Je devais déjà monter les marches à l'envers à ce moment-là. Donc j'avais bien bien poussé. Et surtout en faisant 90 kilos, 1 heure et demie de sortie longue m'avait pas très bien préparé à ce qui allait m'attendre.
Pour autant, on peut faire un marathon et relativement bien le finir à plus que 90 kilos, vu que Nassim, il était plutôt proche
Oui.
des 100. Et ça a marché quand même. Bref, ce n'est pas une question de poids, c'est toujours une question de préparation au final.
Exactement. Oui, après, bah, c'est sûr. Enfin, je suis désolé de te l'apprendre, Nico, mais je ne courrai jamais 2h05 au marathon. Même très certainement jamais 2h20.
Quoi? Tu annonces des choses comme ça aujourd'hui?
Je suis vraiment désolé si j'en déçois, mais ouais.
Oui,
Peut-être. Ouais.
peut-être que si, je vois ce que tu veux dire. Peut-être que par contre, pour atteindre certaines performances, les 90 kilos, c'est pas
Voilà.
l'optimal.
Ouais, bah par exemple, tu vois, genre, je finirai jamais premier d'une étape du Tour de France. Je lèverai jamais les bras en haut de la planche des belles filles. Bon, j'ai fait une croix dessus, c'est comme ça.
Alors, autant en termes de poids, j'ai plus le potentiel pour. Il va manquer une centaine, une grosse, peut-être même plus qu'une grosse centaine de watts pour réussir à faire quoi que ce soit. Rien à voir, mais j'ai vu une petite reel de Mathieu Van Der Poel bien posé sur sa selle qui grimpait et qui doublait des gens comme s'ils étaient littéralement arrêtés sur le bord de la route. Je dis, ok, c'est quand même.
C'est autre
J'aime bien
chose.
ce genre de sport où en fait tu peux voir la différence, en fait te dire, ah, c'est ça d'être à ce niveau-là. Ok, d'accord. Je serai parmi les gens à côté qui déjà galèrent pour monter. C'est comme si tu te faisais doubler par Kipchoge, tu dirais. Attends, mais il y a un mec là qui vient de me doubler avec le sourire en mode ouais, t'inquiète, je fais juste mon allure marathon là.
Il était en sprint, rassurez-moi.
Et non.
Dommage.
Je pense qu'on a un épisode qui n'a absolument pas ressemblé à ce que j'avais sur mes notes, mais ça me va très bien parce que le but de ce podcast, c'est d'échanger. J'espère que vous, ça vous a plu. Bah, comme d'habitude, je sollicite souvent vos retours, mais il y en a besoin. C'est nouveau, tout ça est en test en fait. Donc c'est fait pour vous avant tout. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé et écrivez-moi à Tristan en commentaire du podcast sur Spotify. C'est le seul endroit où on peut mettre des commentaires. Sinon, en message privé, par mail, où vous voulez. Je suis intéressé par vos retours. Et bah, merci Tristan.
Merci Nico. Et puis bah bon courage à tout le monde pour leur préparation, quelle qu'elle soit, parce que j'imagine que si vous écoutez ce podcast, vous préparez quelque chose en course à pied. Donc bon courage.
Et vu que ça fait 1h49 qu'on enregistre, ceux qui sont dans une sortie longue et qui restent encore 10, 20, 30 minutes si vous êtes en prépa marathon,
Bonne
bon
prépa
courage!
marathon.